Bonsoir. Opération de refoulement des Congolais de la RDC de Brazzaville la semaine passée. Kinshasa se dit choqué du traitement inhumain infligé à ses ressortissants par la police brazzavilloise. Le vice-ministre des Affaires étrangères dénonce notamment des cas de torture, pillage et viol. Il plaide pour l'arrêt provisoire de cette opération. Quelle lecture faire de cette situation? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 14 avril 2014. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Maître Célestin Tounda, vice-ministre des Affaires étrangères. Maître Tounda, bonsoir.
Bonsoir.
Franck Dongo, député national et président du mouvement Lumumbiste Progressiste, parti politique de l'opposition. Franck Dongo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Abbé Richard Mugaruka, professeur à l'Université catholique du Congo et analyste. Abbé Mugaruka, bonsoir.
Bonsoir.
Les auditeurs sont nombreux, je voulais dire, à nous envoyer des réactions. C'est le cas de Pascal Kitenge de Kinshasa. Ce refoulement est une honte pour des frères dont les capitales sont les plus rapprochées au monde, mais qui sombrent dans la répétition d'un scénario de très mauvais goût qui reflète le Moyen-Âge, car au 21e siècle, il est étonnant qu'un pouvoir, quel que soit le prétexte, ne privilégie pas la rationalité de la voie diplomatique. Merci de nous suivre par ton RDC sous la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio Capi. Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Opération Bataille à Mikolo de Brazzaville, Kinshasa se dit choqué par le refoulement et les traitements inhumains infligés à ses ressortissants par la police brazzavilloise. Une délégation conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères s'est rendue jeudi dernier au pays de Sassou pour justement s'enquérir de la situation. Le vice-ministre dénonce des cas de torture, pillage, viol et autres traitements inhumains infligés aux Congolais de la RDC refoulés de Brazza. Célestin Tounda et Akassende a plaidé pour l'arrêt provisoire de cette opération, ainsi que la mise sur pied d'une commission bipartite constituée d'experts des deux pays. Michel Kifindangoy nous en dit plus.
Initié pour arrêter et refouler les criminels venus de Kinshasa et d'ailleurs, l'opération dite Mbataya à Mikolo s'est vite transformée à une traque inhumaine et un refoulement massif des Congolais de la RDC vivant à Brazzaville. C'est depuis le week-end dernier que les Congolais de la RDC passent un véritable calvaire sur les territoires brazzavillois, témoigne le président du conseil d'administration du réseau d'information d'appui aux ONG en RDC, présentement à Brazzaville, Jean-François Monguier.
On amène les gens nus dans des stations, donc il y a plusieurs cas de viol, même des petites filles sont violées, il y a des pillages systématiques, on va parler de beaucoup de morts asphyxiées, en tout cas, ça peut dégénérer un génocide.
Choqué, le gouvernement congolais a diligenté jeudi dernier le ministre des Affaires étrangères pour rencontrer les autorités de Brazzaville. Célestin Tounda Yakassé affirme qu'à l'issue de leur échange, il a été retenu ce qui suit.
Premièrement, arrêt de refoulement massif des Congolais de Kinshasa. Deuxièmement, tous les Congolais qui ont des papiers réguliers ne devraient plus être inquiétés. Troisièmement, nous insistons sur le respect de la dignité humaine, des lois sur le plan international et le texte que nous avons signé de manière bilatérale, telle que la convention de 1999.
Pour Célestin Tounda Yakassende, la commission bipartite mise sur pied se chargera aussi d'enquêter sur les informations faisant état des Congolais tués par asphyxie et acheminé à la morgue.
Merci Michel Kifinda pour tous ces détails. Célestin Tounda Yakassende, je rappelle que vous êtes vice-ministre des Affaires étrangères. Jeudi dernier, vous vous êtes rendu à Brazzaville justement pour vous enquérir de la situation de ces Congolais refoulés des Brazza. Dites-nous, monsieur le vice-ministre, qu'est-ce qui explique ce refoulement?
Bon, les autorités congolaises de Brazzaville nous ont déclaré qu'ils ont lancé une opération de police qu'ils ont dénommé Mbataya Yaba Mikolo, et que pour eux, il s'agissait tout simplement de nettoyer les quartiers de la capitale Brazzaville, parce que ils auraient constaté qu'il y avait beaucoup d'effets de criminalité, et que d'après leurs enquêtes, dans ces faits de criminalité, certains de nos compatriotes, donc du Congo-Kinshasa, étaient impliqués. Voilà pourquoi ils ont estimé qu'il fallait que les Congolais de chez nous puissent rentrer à Kinshasa. Mais malheureusement, leur opération a pris des contours qui frisaient le dérapage. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure dans votre reportage, il y a eu effectivement des cas de torture, d'extorsion, de viol parfois. C'est ce que nous avons déploré lorsque j'ai conduit la mission à Brazzaville.
Alors, monsieur le ministre, est-ce que les autorités congolaises de Brazza avaient notifié celles de Kinshasa avant le début de cette opération ou vous avez appris ça lorsque vous êtes rendu sur place? Notifier le fait qu'il y aura une opération pour se débarrasser des criminels dans les quartiers de Brazzaville.
Justement, c'est ça le mauvais côté de cette opération. Parce que Brazzaville, Kinshasa et Luanda, nous sommes liés par une convention de 1999. Cette convention a été signée le 30 décembre 1999 à Luanda. Et c'est une convention sur l'établissement des étrangers, la libre circulation des personnes et des biens. Et suivant le texte, le prescrit de cette convention, avant de refouler les étrangers d'un de ces trois pays, eh bien, le pays qui prend la décision de refoulement doit notifier au préalable les deux autres pays, lesquels devraient à leur tour prendre des mesures d'encadrement pour justement éviter les abus. Et nous avons rappelé l'esprit et le texte, disons l'esprit de ce texte à Brazzaville, et les responsables congolais, ils se sont rappelés, ils se sont souvenus qu'effectivement nous étions liés par cette convention. Donc au départ, madame, il n'y avait pas du tout de notification. C'est nous-mêmes, par ordre de responsables de notre pays, que nous avons traversé, parce que nous avons constaté qu'effectivement, les compatriotes qui revenaient, certains revenaient dans de mauvaises conditions, dans un état qui était inacceptable par les autorités que nous sommes, eh bien, nous étions dépêchés donc à Brazzaville pour qu'on puisse mettre fin à cette situation.
Alors, monsieur le vice-ministre, on sait que ce n'est pas la première fois, mais on se demande pourquoi les Congolais, lorsqu'ils sont refoulés, ça se fait toujours dans des mauvaises conditions avec beaucoup de violences.
Oui, c'est vrai, madame, qu'il y a eu peut-être des cas par le passé, et c'est pourquoi cette fois-ci nous avons tenu à rappeler tout ça à la partie congolaise. Nous avons rappelé également, disons, les relations spéciales, les relations exceptionnelles qui existent non seulement entre nos deux pays, mais entre nos deux présidents. Nous avons rappelé tout ça, nous avons rappelé les accords bilatéraux, nous avons rappelé également le respect de la dignité de tout homme partout où il se trouve. Et cette fois-ci, nous avons signé un document, un communiqué conjoint pour que cela ne puisse plus arriver.
Monsieur le vice-ministre, il y a Kassamba de Bounia en province orientale qui dit ceci, ce qui se passe avec les Congolais dans les soi-disant pays frères et amis, dans l'Angola et le Congo Brazzaville, est le résultat d'une réaction timide de notre gouvernement au nom d'une diplomatie dictée par la peur.
Non, madame, il faut tranquilliser notre compatriote qui est à Bounia. Les choses ont changé. Vous vous rappelez qu'à l'époque de la Deuxième République, les Congolais étaient maltraités ça et là. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous touchez à un seul cheveu d'un Congolais, là où il est, eh bien, vous avez en face de vous le gouvernement congolais. Le président de la République a donné des instructions claires là-dessus. Et c'est comme ça que vous avez remarqué que lorsqu'il y a eu un sinistre en Ouganda, deux ministres du gouvernement, le ministre de l'Intérieur et moi-même, nous nous sommes rendus à Kampala. Et nous avons roulé sur au moins presque 2000 kilomètres pour arriver partout où se trouvaient nos compatriotes. Également cette fois-ci à Brazzaville, ce qui vient d'arriver. Eh bien, deux membres du gouvernement sont descendus à Brazzaville ensemble avec les responsables des services spécialisés. Donc, ce que le compatriote est en train de dire, c'est du passé. Pour le moment, le Congolais doit se sentir, se sentir protégé. Ils doivent se sentir suivis partout où ils se trouvent. Et je voudrais rappeler que au mois d'octobre, il s'est tenu à Bruxelles la table ronde de la diaspora congolaise. Et nous étions là-bas pratiquement 4 membres du gouvernement, avec les délégations des Congolais venant de 4-5 continents, pour que nous puissions rappeler les principes et pour faire comprendre aux Congolais que désormais les choses ont changé.
Merci.
Ce qui s'est passé hier ne peut plus revenir. Vous
Merci.
Savez que les autres pays.
Merci, monsieur le ministre, monsieur le vice-ministre.
Lorsqu'il y a leur, un de leurs
membres,
une seule personne. Voyez ce qui se passe parfois dans, au nord, là-bas, ou dans certains coins du monde. On prend des otages. Un otage, deux, trois. Et les gouvernements s'en préoccupent. Et c'est le cas aujourd'hui sur ordre, n'est-ce pas, de la première autorité.
Merci, maître Célestin Tundar Kassende. Mais il y a cet auditeur de Walungu, Aksanti Rodriguez, qui vous contredit un peu. Lui, il pense que les Congolais sont expulsés des pays voisins. C'est un problème dû à la faiblesse de notre diplomatie, car à l'époque de Mobutu, les Aïrois étaient respectés dans les pays voisins. Maître, honorable Franck Diongo, quelle lecture vous faites de cette situation?
Avant de commencer, permettez-moi de présenter mes condoléances aux familles éprouvées et partager ma souffrance, ma compassion avec mes frères et sœurs humiliés à cause de la faiblesse de notre État. Ce qui s'est passé à Brazzaville, personne ne m'a souffert dans la chair, je ne dormais pas. Comme mon téléphone est ouvert et public, j'étais saisi, je travaille jusqu'à 1h du matin. Et le ministre titulaire de l'intérieur peut en témoigner. Ce qui s'est passé à Brazzaville, c'est l'impuissance politique de la majorité au pouvoir. C'est l'échec de la politique étrangère du président Kabila, qui est incapable de sécuriser les Congolais et de faire respecter les Congolais. Je salue.
Vous avez suivi le ministre des Affaires étrangères.
Je salue la lucidité des deux frères, celui de Bounia et celui de Walungu, qui ne font pas foi ni confiance à la propagande de monsieur le ministre, parce que les Congolais de Brazzaville sont déçus de la réaction timide de notre pouvoir, de notre gouvernement. Imaginez-vous qu'on a pris des Congolais vivants, on les a mis dans des morgues.
Vous avez des preuves?
J'ai été saisi, j'ai dit au ministre de l'Intérieur, il y a eu des preuves, j'ai des noms. Madame, il y a des enfants de 4 mois qui ont été tués. Et lorsque vous voyez la réaction, c'est un gouvernement faible qui va ramper, qui juste avant un vice-ministre, le premier ministre, ce n'est pas tellement important que le premier ministre ne peut pas partir, le président de la République ne peut pas partir, le gouverneur ne peut pas partir, encore moins, d'autres ministres ne peuvent pas partir. Donc ici, la légèreté avec laquelle...
Mais la délégation qui a représenté, madame, la RDC, c'est quand même le gouvernement.
Dans l'âme, lorsque j'en parle, je vous ai dit que toutes les autorités de la ville, ils savent combien de fois je les ai dérangés. Parce que la manière dont les Congolais nous appelaient, n'oubliez pas, je suis lui de Kinshasa, et ce sont ceux de Kinshasa qui traversent à Brazzaville. Donc, notez que lorsque j'attends la propagande de Maître Tunda, avec qui j'ai beaucoup de respect, il sait que je le respecte personnellement, mais je ne partage pas cette propagande que les Congolais ne croiront pas ce soir. Notez que moi je m'attendais, compte tenu de la gravité de fait, des dommages causés, des préjudices causés, je m'attendais à des mesures de fermeté, à des actions de réciprocité. Vous ne pouvez pas faire ça à un Libyen à l'époque de Kadhafi, ou à un Zaïrois à l'époque de Mobutu, ou à un Rwandais aujourd'hui, tu ne peux pas le faire. Aujourd'hui, madame, le président Kabila, avec son gouvernement, ils ne sont pas capables de sécuriser les Congolais. Le cas de l'Ouganda, dont le ministre, le vice-ministre a relevé, c'est une honte pour la République. Les Congolais qui ont fui la guerre, qui sont partis en face du côté de l'Ouganda, sont rentrés eux-mêmes et leurs règles, tout en sachant qu'au Congo, leurs règles des enjeux de transport ne sont pas respectées. Il y a eu surcharge et ceux qui ont fui la mort sont morts au retour. Qu'est-ce qu'ils en ont fait en termes d'anticipation? La même chose à Brazzaville.
Lorsque vous parlez
d'action réciprocité,
qu'est-ce que vous entendez par action de réciprocité? Ça veut dire que le gouvernement doit
faire
la même chose ici?
Pour faire respecter les Congolais, on devrait agir avec fermeté. Par exemple, refouler les Congolais de Brazzaville. C'est-à-dire qu'il faut faire
même
respecter
si
les Congolais.
Même s'ils sont en situation régulière.
Notez, madame, écoutez-moi s'il vous plaît. Il se pose un problème de respect des Congolais. J'étais à Genève lorsque on avait arrêté le fils de Kadhafi qui avait tapé sur sa bonne. J'étais à Genève. Et le fait qu'on arrête le fils de Kadhafi pour aller le juger par la justice suisse, Kadhafi a refoulé 5 ambassadeurs, pardon, 5 diplomates, et a arrêté, pas seulement qu'il les a arrêtés, il a coupé la coopération commerciale avec la Suisse, il a enlevé 5 milliards de dollars le même jour. Donc, je m'attends à des mesures qui devaient faire respecter les Congolais. Donc, les Congolais, aujourd'hui, je crois que le vice-ministre de l'Intérieur, il est au courant, des affaires étrangères, il est au courant, c'est que ça se passe au Centrafrique aujourd'hui, c'est pas hier. Aujourd'hui, il y a un problème grave des Congolais qu'on refoule des Centrafrique. Aujourd'hui. Donc, les Congolais ne sont pas respectés parce que le président Kabila ne sait pas faire respecter les Congolais. Donc, c'est l'échec de la politique étrangère. Ce que le ministre a dit ce soir, dans les futurs, les Congolais sont habitués à des promesses. La même chose, et le président Kabila promet toujours, on ne peut pas promettre à la fin de la mandature. Donc, les Congolais sont déçus, ils ont besoin d'un autre gouvernement, d'un autre président.
Il y a quand même des conventions qui lient la RDC au Congo-Brazzaville. C'est pas parce que le Congo-Brazzaville ne respecte pas cette convention que la RDC doit le faire aussi.
Mais, madame, est-ce que vous avez attendu des mesures d'anticipation? Les gens sont morts. Vous avez attendu? Il n'y a aucun bilan à ce jour. On nous parle d'une commission d'enquête. Vous avez déjà attendu une commission d'enquête créée par le gouvernement ici dont on a rendu public le résultat?
Bon, maître Tounda va nous remettre, va nous répondre parce qu'il est dans cette émission.
Et même pour le début de cette opération, le Congo-Brazzaville a parlé du jeune Kanyama qui serait traversé à Brazzaville. Ils se sont servis d'un mensonge. Moi, j'ai appelé personne le jeune Kanyama. J'ai appelé le ministre de l'Intérieur. J'ai appelé le numéro 1 de la DGM. Kanyama n'a jamais été à Brazzaville. Et vous comprenez? Et c'est cela.
Merci.
Quelle a été la réaction du gouvernement par rapport à ces mensonges?
Merci. La réponse tout à l'heure dans le deuxième tour de table, honorable Franck Dungo, abbé Richard Mungaruka, professeur à l'Université catholique du Congo et analyste. Quelle est votre analyse par rapport à cette situation des Congolais qui sont refoulés avec beaucoup de violences de Brazzaville?
Je vous remercie de me donner l'occasion de m'exprimer sur cet incident que je considère comme très malheureux. Très malheureux, d'abord du point de vue du droit et de la pratique dans les relations internationales. Parce que, comme on le sait, nos pays sont liés par une convention réglementant la libre circulation des personnes et des biens entre le Congo-Brazza, le Congo-Kinshasa et l'Angola. Et donc, rien que de ce point de vue-là, il y a déjà là un premier manquement, un premier délit qu'il faut souligner. Même si, éventuellement, il y a des Congolais qui ont traversé ou qui vivent en situation irrégulière dans la république voisine et frère du Congo, la manière de les traiter aurait dû respecter cette convention qui existe et qui est donc s'en tenir à la réglementation et au droit dans ce domaine. Deuxièmement, et ceci est beaucoup plus grave, la manière dont nos compatriotes ont été traités là-bas, ont été refoulés, est tout simplement inacceptable parce qu'incompatible avec la dignité humaine. Il s'est avéré que effectivement, il y a eu torture, il y a eu pillage, il y a eu exaction, il y a eu viol. Et cela est tout simplement inacceptable parce que, comme vous le savez, les droits humains sont devenus aujourd'hui le patrimoine de toute l'humanité. Et aucun pays ne peut s'y soustraire sous peine de se ranger dans le camp de l'inacceptable, de ce qui, justement, porte atteinte à la conscience humaine universelle. Ces deux éléments étant soulignés, je voudrais quand même dire ceci. Notre pays souffre d'un manque de contrôle réel du mouvement migratoire des populations. C'est-à-dire que nous ne maîtrisons pas les mouvements de notre population, nous ne maîtrisons même pas notre propre population. Notre frontière est une passoire, Et les gens, la plupart des Congolais, puisque le pays n'arrive pas à démarrer, puisque le pays vit dans la misère, vous savez que nous sommes depuis plusieurs années parmi les tout derniers dans le classement de l'indice du développement humain. La plupart des Congolais ne rêvent que de quitter le pays pour aller ailleurs. Et donc, il y a un fort mouvement émigratoire. On parle aujourd'hui des Congolais réfugiés à Brazzaville, mais ils sont réfugiés dans tous les pays limitrophes, alors que les pays limitrophes ne sont pas nécessairement des paradis. Eh bien, les gens, les Congolais, beaucoup de Congolais ne pensent, ne rêvent que de quitter le pays, parce que, comme on dit à la terre, ubi bene ibi patria, la patrie, c'est le pays où vous vous sentez à l'aise. Lorsque les gens sont soumis à une misère vraiment aiguë, lorsque le pays n'est pas suffisamment sécurisé, ils ne peuvent que rêver d'aller chercher des cieux plus cléments ailleurs. Et aujourd'hui, donc, nos compatriotes quittent le pays en masse. On parle de cela des pauvres, mais attention, il y a aussi la fuite des cerveaux. Lorsque nous voyageons un peu, que nous faisons le tour des pays limitrophes, nous trouvons beaucoup de Congolais qui ont des diplômes rares, qui ont trouvé refuge là-bas, dont on ne parle pas. Mais donc ce mouvement-là de l'immigration est un phénomène qui existe. Notre pays, notre gouvernement, notre État devrait commencer par maîtriser les flux migratoires de la population. Ne pas faire cela, c'est être un pays défaillant. Un pays normal, un État normal, doit pouvoir maîtriser sa démographie. Aujourd'hui, ici, nous n'avons même pas, nous ne savons pas qui est Congolais, qui ne l'est pas, parce qu'il n'y a pas de papier, il n'y a pas de papier d'identité réelle. Et donc, nous sommes dans une situation où notre déficit de gouvernance favorise et pousse beaucoup de nos compatriotes à fuir ailleurs, et dans des conditions qui ne sont pas régulières, se mettant ainsi eux-mêmes d'ailleurs en porte-à-faux contre la loi du pays où ils sont allés. C'est normal qu'un pays maîtrise le mouvement, le flux immigratoire. C'est-à-dire, nous devions contrôler tout ce qui entre dans notre pays et vérifier s'ils l'ont fait en bonne et due forme. Le fait qu'il existe une convention de libre circulation des biens des personnes ne signifie pas qu'on entre n'importe comment. Au contraire, cela signifie qu'on entre et que cela est réglementé, cela se fait dans la transparence, selon le droit. Eh bien, s'il y a des Congolais qui partent ailleurs, parce qu'ils fuient la misère, parce qu'ils fuient l'insécurité, parce qu'ils fuient le déficit de gouvernance, parce qu'ils fuient toutes sortes de souffrances dans notre pays, et s'il y a des Congolais qui partent comme ça, sans respecter le droit, eh bien, il est normal que ces pays-là, les pays chez où ils vont, et où ils se comportent, où ils entrent clandestinement et légalement, mais que ces gens-là les rapatrient chez nous. C'est ce qui arrive d'être souvent avec des charters ou des avions qui viennent des pays occidentaux, qui rapatrient ce qu'on appelle les Congolais irréguliers là-bas, les Congolais sans papier. Mais la manière dont cela s'est fait avec le Congo est inacceptable, je le dis encore une fois. C'est immoral, c'est illégal, c'est contraire à la dignité humaine.
Merci,
le Congo aurait dû avertir Kinshasa en lui disant, voilà, j'ai attrapé ici, chez moi, une centaine ou un millier ou deux milliers de Congolais qui sont irréguliers. Ils peuvent décider de les expliquer parce qu'ils sont irréguliers.
Merci. Mais alors, merci Abbé Mugaruka. Maître Célestin Tunda, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
Et M. Tchirinda, depuis la ville de Bukavu, dans la province de Sud Kivu, nous sommes très choqués par ces expulsions avec brutalité par nos compatriotes des Congos voisins. Néanmoins, je me demande si c'est par une simple déclaration qu'on doit demander à un État de cesser avec les expulsions. Il n'y a pas de Congolais d'en face sans papier en RDC. Et chez nous, le principe de la réciprocité n'a jamais dit quelque chose à nos dirigeants. C'est quand ils rappellent les calvaires des Congolais vivant encore en Angola, et c'est vraiment dommage pour nos compatriotes vivant à l'étranger et dont le gouvernement ne favorise à rien.
Maître Célestin Tunda, réaction comment vous répondez à cette réaction de Aimé Tchirinda qui nous écrit depuis Bukavu?
Oui, d'abord, je voudrais dire que, avant de répondre à cette interpellation de notre compatriote du Sud Kivu, je voudrais dire d'abord par rapport à ce que notre ami Franck Diongo a dit tout à l'heure. Vraiment aujourd'hui je ne reconnais pas mon ami Franck Diongo parce que Il voudrait profiter d'un incident où nous sommes en train de déplorer, des situations qui ont blessé nos compatriotes pour faire de la propagande. Ça, ce n'est pas honnête, ce n'est pas bien. Et deuxièmement, il doit reconnaître que dans les cas d'espèce, il n'y a pas eu de mensonge. Il n'y a pas eu de mensonge parce que, non seulement pour le cas de l'Ouganda, le gouvernement était là, pour le cas des étudiants qui étaient arrêtés en Inde, des étudiants congolais, le gouvernement était là, et ici à Brazzaville, le gouvernement, non seulement il était là, mais il est arrivé à des résultats. On est arrivé à des résultats.
Est-ce qu'il y a un bilan, monsieur le vice-ministre?
Oui.
Est-ce qu'il y a un bilan? Est-ce qu'il y a des morts? Vous avez les nombres des morts? Les blessés?
Non, les morts, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas non plus qu'on exagère en disant qu'il y a eu des morts.
Non, c'est une question que l'on pose. On veut savoir s'il y a eu des morts.
Attendez que les enquêtes se terminent. C'est comme ça que... On travaille dans un pays de droit.
Et la commission a déjà commencé son travail.
Oui, oui, bien sûr. Et nos experts, je vous dis que depuis aujourd'hui, nos experts sont déjà de l'autre côté du fleuve pour le travail. Donc le travail s'est fait.
Alors, revenons à la question de Aimé Tshilinda qui parle du principe des réciprocités.
La réciprocité ne signifie pas la réciprocité ne signifie pas que lorsque les uns violent les droits humains, et au Congo, nous devons nous devons faire de la même manière. Nous sommes un pays de droit, et là, je voudrais même répondre indirectement également à l'abbé Mugaruka qui dit que les Congolais sont en train de fuir leur pays pour aller chercher mieux ailleurs, parce qu'ils suivent une mauvaise gouvernance. Non, le Congo est en train de se redresser. Et les compatriotes qui sont à l'extérieur sont en train de revenir au pays. Parce qu'aujourd'hui, les résultats sont là, la croissance est au rendez-vous, la reconstruction du pays est en marche, l'emploi est en train de se créer. Donc, laissons la propagande et disons les choses telles qu'elles sont.
Alors, il a aussi posé une autre question, c'est celle de savoir si c'est par une simple déclaration qu'on doit demander à un État de cesser avec les expulsions. Monsieur le vice-ministre, est-ce que vous êtes avec nous dans l'émission?
Oui, je vous écoute.
Alors, je disais, l'auditeur demande aussi, est-ce que c'est par une simple déclaration qu'on doit demander à un État de cesser avec les expulsions?
Ce n'est pas par une simple déclaration, l'auditeur a raison. Et je vous dis, madame, que les membres du gouvernement qui sont arrivés à Brazzaville ont pu obtenir des résultats concrets. Ce n'est pas par une simple déclaration. Il y a eu un communiqué qui a été signé de manière bilatérale entre les deux pays. Les expulsions sont arrêtées, n'est-ce pas? Et les autorités de Brazzaville, je ne sais pas si au sud qui vont le compatriote qui a posé la question n'a pas suivi les médias. Eh bien, les autorités de la police de Brazzaville ont arrêté certains de ces personnes du Congo qui ont causé, de traumatismes à nos compatriotes. Il y en a certains qui seront déférés devant la justice. Donc ce n'est pas des simples déclarations.
À ce jour, monsieur le vice-ministre, on peut dire...
À un certain moment, ils puissent reconnaître, lorsque les responsables du pays posent des actes significatifs, posent des actes concrets. Et dans le cas d'espèce, tout a été arrêté à Brazzaville.
Donc à ce jour, on peut dire, monsieur le vice-ministre, que cette opération n'est plus en cours.
Vous dites?
On peut dire qu'à ce jour, cette opération n'est plus en cours.
Cette opération n'est plus en cours, madame.
Merci, monsieur le vice-ministre.
Vous avez suivi.
Merci.
Cette opération n'est pas en cours et les experts des deux pays, Brazzaville et Kinshasa, sont en train de travailler aujourd'hui pour examiner cas par cas. Et tous les Congolais qui étaient à gauche, à droite, qui étaient en fuite, sont rentrés chez eux.
Merci, monsieur le vice-ministre.
L'opération n'est plus en cours, madame.
Merci.
Au contraire, ce sont les sanctions qui sont en train d'être prononcées contre les coupables de la police congolaise.
Merci, monsieur le vice-ministre, honorable Franck Diongo. Avant de réagir au propos du vice-ministre, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Je m'appelle Sylvie Mamba, j'habite à Kinshasa dans la commune de Bandalunga. Pendant que nous y sommes, nos dirigeants devraient tirer des leçons de ces situations qui les ridiculisent sur le plan international. Il est plus que temps pour eux de se remettre en question et se demander pourquoi les Congolais fuient leur propre pays.
Réaction.
La réaction, c'est claire. L'abbé Mugaruka, dont je salue ce soir, a démontré que le déficit de gouvernance, la mauvaise gouvernance, fait que la politique du président Kabila pour la jeunesse congolaise prépare la jeunesse congolaise à devenir l'imbécile de demain. On a sémé dans la jeunesse congolaise les dégoûts de vivre au Congo et les besoins d'un ailleurs que l'on croit meilleur. Et voilà, ils sont morts, ils sont ridiculisés, incapables de nous faire respecter. Notez. Je salue Maître Tunda, Maître Célestin, il sait que je l'aime beaucoup.
Que vous accusez aussi de faire de la propagande.
Alors, dont je ne partage pas ce soir sa lecture. Notez. Que vous avez compris que je posais la question du bilan. Et vous avez posé également, Monsieur le Ministre, à ce jour, même un bilan provisoire. Madame, écoutez, les gens sont morts. J'annonce au ministre que lorsque j'avais parlé avec le ministre de l'Intérieur, parce que le Congolais m'appelait à tout moment, le ministre de l'Intérieur reconnaît quand même quelques morts.
Il est vrai. Il vous l'a dit.
Il me l'a dit, j'ai dit publiquement. Donc, la population m'a dit qu'à un seul jour, il y a eu plus de 10 morts, d'un bébé de 4 mois. Il est vrai que le ministre reconnaissait 3 morts. Le ministre Tunda ne peut pas reconnaître même une seule mort. C'est quand même grave, ça. Notez, au niveau de messages aux Congolais qui sont restés, notre gouvernement n'a aucun message à adresser à ceux qui sont restés. Et ceux qui sont morts, on va les enterrer comment? Ils sont enterrés où? On va attendre une commission d'enquête pour que ces morts-là soient enterrés. Les cas des Congolais dont on a mis vivants, on les a mis vivants dans des morgues. Les ministres ne relèvent pas cela. C'est un cas grave.
Mais il y a une même commission qui enquête sur ça, Monsieur Franck Dongo. Il faut attendre des conclusions des
Vous avez déjà vu une commission enquêtes. Une commission au Congo dont on a rendu public et des sanctions. Les gens peuvent mourir par accident.
Mais pourquoi vous êtes pessimiste?
Mais parce que c'est une lecture par analogie. Non, je vous donne un cas de figure. Ils ont parlé les cas du général Kanyama. Tu sais comment les Sud, les Congolais de Brazzaville ont monté l'opération? Ils ont fait croire aux Congolais de la RDC vivant Brazzaville qu'on a Kanyama qui était venu ici pour qu'on puisse chasser les Congolais d'ici. Et pour tous les Congolais de Brazzaville. Alors que le ministre sait.
Et le général maintenant, il n'est plus colonel.
Pardon, le général Kanyama, excusez-moi, le général Kanyama. Alors, qui est le commandant de la ville ici. Et dans l'opération Likofi à Kinshasa, tout le monde sait comment le général Kanyama avait réussi dans son opération Likofi. Mais là-bas, on appelle opération Mbata. Pour faire une opération similaire à ce qui a été à Kinshasa. Quelle a été la réaction du gouvernement, tant que tout le monde sait, parce que j'ai vérifié auprès du service de DGM, j'ai appelé Jean Kanyama lui-même, il n'a jamais traversé. Quelle a été la réaction du gouvernement lorsqu'on se sert du mensonge pour mettre le trouble entre les Congolais? Ils n'ont rien dit, ils n'ont rien fait.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que pareil alors, situation
c'est
se reproduise
respect, on ne pouvait pas nous informer. Ça veut dire qu'un gouvernement qui ne se fait pas respecter, on ne peut pas tenir compte de vous. Voilà même la réaction. J'ai un compatriote avait dit, la diplomatie dictée par la peur. C'est cela qui a guidé, qui guide notre gouvernement. Moi, je pense qu'ici, il est question de prendre la responsabilité, l'éthique morale, l'éthique de responsabilité nous commande à ce que nous puissions défendre et faire respecter les Congolais, madame. Aucun bilan, aucun message envers les Congolais qui sont victimes, aucun message, madame, par rapport aux dommages causés. Même si j'ai une commission d'enquête, je vous donne ma main à couper. Vous n'aurez pas à voir des sanctions. Au Congo-Brazzaville, en Angola, en Ouganda, dans tous les pays voisins, on nous manque du respect parce que notre gouvernement n'a pas d'affection, n'a pas d'amour, n'a pas du patriotisme avec les Congolais qui
on
sont
à l'extérieur. On n'aura pas de sanctions de la part de qui, puisque au Congo-Brazzaville, on a arrêté certains militaires qui s'étaient livrés à ce genre, à ces révoltements avec
cette prise
violence.
De conscience est tardive. Cette prise de conscience est tardive n'est pas de nature à séduire l'opinion congolaise.
Merci.
Et tout ce que le ministre a dit, les Congolais ne croiront pas.
Merci, honorable Franck Diongo. Monsieur l'abbé Mugaruka, on va prendre pour vous aussi cette réaction qui nous vient de Kisangani dans la province orientale.
Je suis Bosco Bambalatiu et j'appelle depuis Kisangani dans la province orientale. Je n'apprécie pas ce que les Congolais de Brazzaville nous font subir, mais je crois que nous devons continuer à subir tout ça parce que notre pays, malgré tout, ces minéraux et nos autorités, ne font même pas à mesure de nous réunir les conditions nécessaires pour que nous vivons à l'aise ici chez nous-mêmes. Voilà pourquoi nous allons chercher chez les voisins qui nous font souffrir et qui nous méprisent en nous faisant subir des traitements inhumains. C'est pourquoi je rejette aussi la grande partie des défauts à notre gouvernement national.
Alors, M. l'abbé Mugaruka Bosco Mbalatiwe, vous rejoint un peu dans votre analyse, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce genre de situation à l'avenir?
Merci. Tout d'abord,
Je voudrais signaler à Monsieur le ministre que dire que ça va bien au Congo, c'est vraiment provoquer le peuple, c'est vraiment se moquer de tous ces Congolais qui, parce qu'ils vivent mal, parce qu'ils vivent en dessous du seuil de la pauvreté, parce qu'ils représentent la grande majorité des Congolais chômeurs qui ne s'épanouissent pas dans ce pays, parce que ces gens-là, ils sont vraiment la majorité, c'est moi qui se moquer d'eux. Eux qui souffrent et qui cherchent comment fuir ce pays parce qu'ils ne trouvent pas leur compte, ils ne supportent pas ce langage-là quand on leur dit qu'il y a la croissance. Cette croissance, c'est quoi lorsqu'on sait que le salaire moyen d'un fonctionnaire de l'État ne dépasse pas 72 dollars? Donc, on sait très bien que la croissance ne signifie rien si elle n'est pas accompagnée par ce que l'on appelle une redistribution juste des richesses du pays. Ceux qui sont riches, les quelques-uns, l'oligarchie qui a confisqué les richesses du pays, devraient comprendre que le peuple ne peut pas les laisser faire indéfiniment. Ce pays nous appartient à nous tous et un état de droit, c'est un état qui d'abord commence par penser à sa population, à une redistribution juste et équitable des revenus du pays. Et ça, ça n'y est pas encore. Donc si vraiment il y a quelqu'un qui fait de la propagande, c'est bien lui, sur cette matière-là qui touche beaucoup les Congolais. Vous savez, beaucoup de nos jeunes gens ne pensent qu'à quitter ce pays parce qu'ils ne trouvent pas leur compte. Et je pense qu'on a pu l'entendre aussi par les interventions qui ont suivi ce que nous avons dit.
Alors, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce genre de situation à l'avenir, M. l'abbé Mougafouka?
Je voudrais d'abord saluer le fait que notre gouvernement n'a pas cédé à une réaction de violence et d'irrationalité. En toutes circonstances, il faut savoir raison garder. Et je pense que le fait d'avoir opté pour la négociation est une voie de sagesse. Et que donc, si on peut arranger cela par la négociation, il vaut mieux le faire et éviter de le faire par la violence. Du reste, la réciprocité dans ce cas-ci, ça serait quoi? Ça serait que le gouvernement congolais viole le droit parce que les autres l'ont violé et ce n'est pas normal. Donc là, je pense que d'avoir choisi la négociation est une voie de sagesse que je salue et j'espère que cette négociation va suffire. C'est seulement si elle ne suffit pas qu'il faudra alors recourir à ce que l'on appelle la réciprocité, parce que vous savez qu'il n'y a pas de dissuasion diplomatique sans dissuasion militaire. C'est-à-dire que nous devons être capables de monter notre force si jamais nous ne pouvons pas arriver à faire respecter le droit par les voies pacifiques. Ça, je respecte. Donc, je voudrais qu'on continue dans le sens-là que cette fois-ci, cette fameuse commission fasse son travail, cette commission mixte fasse son travail, qu'on tire toutes les conclusions et surtout que cela soit suivi des faits. D'abord, du point de vue du pénal, qu'on punisse ceux qui se sont rendus coupables de ces graves violations des droits de l'homme. Ensuite, du point de vue diplomatique, pour que nous nous entendions désormais pour respecter le droit et procéder de manière diplomatique, c'est-à-dire par le dialogue. Et enfin, et surtout, il faudra que notre pays tire des leçons de cela. Tant que nous ne parviendrons pas à assurer à nos concitoyens un minimum de bien-être ici dans notre pays, et ce qu'on appelle la gouvernance, c'est la capacité d'assurer le bien-être du peuple et le développement du pays. Tant que nous ne pourrons pas assurer à nos concitoyens un minimum de bonheur ici, ils chercheront à fuir ailleurs.
Merci, monsieur l'abbé Mougarouka. Monsieur le ministre, maître Célestin Tunda, rapidement, est-ce que tous ces réfugiés congolais seront pris en charge par le gouvernement?
Oui, je vous dis, madame, que déjà au moment où nous étions à Brazzaville avec les autres responsables de notre pays, nous avons pris des dispositions pour commencer à sécuriser les compatriotes que nous avons vus là-bas, ceux que nous avons rencontrés au niveau de l'ambassade. Nous avons essayé d'intervenir sur la logistique pour permettre à ces Congolais d'être réhabilités. Et même leur traversée, la traversée de ceux qui voulaient rentrer au pays, nous l'avons assurée et nous avons permis à ceux qui devaient se faire soigner de bénéficier des soins adéquats par rapport au traumatisme qu'ils ont reçu.
On sait que beaucoup des Congolais ont perdu leur bien, monsieur le vice-ministre, excusez-moi rapidement.
Je remercie l'abbé Mugaruka dans une partie de son intervention, lorsqu'il a voulu montrer que les mesures, disons la démarche que le gouvernement a prise pour essayer de résoudre ce problème, était la démarche la mieux indiquée. Je crois que c'est une leçon un peu pour l'honorable Diongo, Franck Diongo. Parce que quand je disais que je ne reconnaissais pas l'honorable Franck Diongo, c'est parce que quand j'ai parlé avec l'honorable il y a quelques temps, chaque fois qu'on se rencontrait, mais je savais que l'honorable Diongo savait voir et constater les choses telles qu'elles sont. Mais aujourd'hui, il me donne l'impression de parler comme un aveugle.
Alors, monsieur
donc,
le
quelqu'un qui ne voit pas tous les efforts qui sont déployés aujourd'hui.
Monsieur
quand
bien
même on serait à l'opposition, madame, la vérité, c'est une valeur. La vérité, c'est une vertu.
Monsieur le vice-ministre.
On ne peut pas dire noir là où c'est blanc. On ne peut pas dire rouge là où c'est bleu.
Monsieur le vice-ministre, s'il vous plaît.
Parce que celui qui ne voit pas les efforts qui sont déployés aujourd'hui ne peut pas se dire un homme d'État.
Voilà, monsieur le vice-ministre, est-ce qu'on peut se comprendre?
Effectivement, dans ce domaine, il y a des efforts. C'est lui qui ne reconnaît pas que...
Monsieur le vice-ministre, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut se comprendre?
Concrétisé par le gouvernement aujourd'hui. Cette croissance n'existait pas il y a quelques années. La redistribution dont on parle, ou bien la lutte contre la pauvreté, tout cela ne peut pas se faire s'il n'y a pas de croissance, s'il n'y a pas une économie soutenue. Où est-ce que vous voulez avoir des moyens pour redistribuer?
Merci.
Où est-ce que vous voulez avoir des moyens pour lutter contre la croissance?
Merci, monsieur le vice-ministre. Alors, Franck Diongo, on est en train de parler des solutions là pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise à la longue. On a suivi l'abbé Mugaruka qui a quand même salué le geste du gouvernement de ne pas s'élancer aussi dans la violence, parce que pas parce que de l'autre côté ils ont utilisé la violence pour écouler les Congolais qu'on doit le faire aussi, ici aussi.
Non mais monsieur l'abbé, c'est un prêtre ne peut pas envoyer des gens à la violence, c'est clair, lui c'est un religieux. Mais du point de vue politique, il faut les actions de réciprocité pour se faire respecter. Donc, c'est clair, il n'y a aucune leçon que je tire. Je comprends, je reconnais l'abbé comme un catholique qui ne peut pas envoyer des gens à la violence. Mais ici, notre gouvernement a failli le fait de n'avoir posé aucun acte de réciprocité. Combien de personnes ils ont trouvées dans l'ambassade? Combien de victimes ils ont identifié comme un rapport intérimaire? Et quelle est la logistique dont le ministre fait allusion? C'est combien d'argent? C'est quoi en nature? Et c'est combien? Pour combien de personnes? Ils ont payé les biens d'avion ou bien les biens de bateau pour combien de personnes? Quelle est l'étendue, l'extension de la logistique, madame? Je pense que cette propagande, les Congolais sont très fâchés en attendant les ministres. En écoutant.
Alors qu'est-ce que vous proposez pour que ces gens des situations se reproduisent?
Les gens de ces situations, pour que cela ne se répète plus. C'est un changement au pays. Parce que cette majorité au pouvoir n'est pas capable de faire respecter les Congolais. N'est pas capable de faire respecter
dans
la
l'immédiat,
jeunesse.
Dans l'immédiat.
Notez que lorsque le ministre parle du chômage, combien d'emplois ont-ils créés en 3 ans, en 1 année? La croissance a quel impact dans les taux de pauvreté et de chômage?
Là, vous nous parlez
dans
pas
l'immédiat,
des solutions.
Dans l'immédiat, la solution immédiate pour nous faire respecter ce que le gouvernement doit s'impliquer directement avec un budget clair en rendant public ce qu'ils doivent faire. Et je salue également l'implication personnelle du ministre de l'Intérieur. Et dont il s'est dérangé plusieurs fois pour ces dossiers. Et les Congolais Congolais qui sont à Brazzaville en sont reconnaissants également.
Merci, honorable Franck Diongo. On considère cela aussi comme votre conclusion, monsieur l'abbé. En quelques mots pour conclure.
Oui, je pense que ces incidents qui viennent, ces incidents malheureux, inacceptables, intolérables, et qui appelle justice, c'est-à-dire qui appelle non pas seulement sanctions, mais aussi réparation envers les victimes, que ces incidents interpellent profondément notre gouvernement. Nous devons savoir que tant que les Congolais ne se sentiront pas épanouis, tant que les richesses de notre pays ne seront pas bien exploitées, bien gérées, et au profit de tout le peuple, par une distribution que j'appelle équitable des richesses du pays, tant qu'il en sera ainsi, les Congolais vont continuer à fuir.
Merci, monsieur l'abbé Mugaruka, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais qui m'a aidé à préparer et réaliser cette émission. Bonsoir chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.